Bienvenue à la série « Le monde change », une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Partir à la recherche de notre histoire, c'est un peu partir à la recherche d'un trésor, d'autant plus que les îles de la Madeleine sont si surprenantes. En 1920, le frère Marie-Victorin, venu aux îles pour compléter la flore laurentienne, véritable référence en botanique, dit ceci de notre terre. D'énormes émeraudes de contes orientales serties de rubis et reliées entre elles par des chaînes d'or, un archipel égéen jeté là pour animer l'immense solitude du golfe, telles me sont apparues les îles de la Madeleine. Est-ce que les Micmacs ont ressenti cet émerveillement lorsqu'ils ont mis les pieds ici? L'histoire allait peut-être me le révéler, puisque pour la deuxième fois, je tenterai d'obtenir l'autorisation de consulter des documents d'archives à la municipalité des îles de la Madeleine. La semaine dernière, grâce à la loi d'accès à l'information, j'ai enfin pu voir les documents de Moira McCaffrey, une chercheure archéologue d'une grande valeur qui a séjourné sur les îles au début des années 90. J'ai rencontré pour vous un membre de son équipe à l'époque, Hélène Chevrier.
Les Micmacs ou les Amérindiens, je soupçonnais qu'ils étaient venus ici, puis que, bon, ben, peut-être que oui, qu'on pourrait faire la preuve de la chose. Puis, à ce moment-là, il y avait le programme avec Moira McCaffrey, là, qui était de faire vraiment l'inventaire du potentiel. Les travaux se situaient dans une période. Il m'était possible de me rendre disponible. Nos recherches se situaient dans des zones qui étaient moins habitées, parce que je me suis rendu compte, en faisant ces travaux-là, que les Amérindiens qui venaient ici utilisaient plus le bord des lagunes, je dirais, que la haute mer. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça qui se passe, parce que là où on a nos falaises, les falaises se sont érodées. Alors que du côté plus lagunaire, l'érosion est plus lente. De toute façon, c'est comme ça que à la fin des années 80, j'ai accepté d'être assistante. En même temps, il y avait Léonard Clark, qui lui était un historien plutôt âgé, qui était retourné aux études en histoire à l'Université Nouveau-Brunswick. Puis lui était aussi assistant. Fait qu'on a fait une petite équipe, Moira, lui et moi. De temps en temps, s'est ajouté quelques autres assistants, mais on était l'équipe de base. Ça s'est fait sur 3-4 étés. C'est à peu près un mois et demi de travaux. Mais préalable à ça, l'archéologue en titre, Madame McCaffrey, elle avait fait vraiment une étude de littérature et elle avait déjà des indications où peut-être qu'il y aurait des choses à vérifier. Parce que d'ailleurs, il y a d'autres archéologues du fédéral qui étaient venus dans les années 50, je pense. Fait qu'il y avait déjà là un premier regard qui avait été donné à notre potentiel archéologique. Et Mme McCaffrey avait tout relevé, ces choses-là, et même, elle avait pris connaissance des choses qu'ils avaient découvertes et la localisation à tel et tel endroit. Elle avait vraiment fait un premier départage de où il fallait qu'on jette un coup d'œil. Le terrain comme tel, un terrain d'archéologie, c'est très normé. Comme c'était un inventaire de potentiel, il fallait faire les choses vraiment avec délicatesse, mesurer, géolocaliser les artefacts qu'on peut trouver. Ce qui est le plus précieux, c'est l'environnement dans lequel on les trouve. Donc, quand on faisait un petit sondage, ben là, il fallait comme voir la structure du sol, à quel endroit on l'avait trouvé exactement. Par exemple, on a trouvé quelques pointes de flèches, on a trouvé beaucoup d'éclats, des morceaux de taille de la pierre, parce qu'en préhistoire, on est là-dedans. Puis on a trouvé aussi quelques tessons de poterie, qui étaient de différentes factures. Là. Même chaque emplacement, il y a un numéro particulier. Si on a trouvé, ça devient comme avec un numéro de site. Parce qu'on n'a pas fait de fouilles, on a fait de l'échantillonnage de potentiel. Mais c'est quand même très intéressant. Là. Il y a vraiment un potentiel de travaux à poursuivre. Puis on a fait vraiment comme le tour de l'archipel. Là. On s'est même rendu à l'île Brion, puis à l'île d'Entrée. C'est pas là qu'il y a les plus grandes découvertes. Ce qu'on sait, c'est que les Micmacs particulièrement sont venus en fréquenter. Mais nulle part, on a trouvé de sites qui étaient communs avec les Européens. Parce que c'est ça aussi qui est important de voir jusqu'à maintenant par ces travaux qu'on a fait vraiment d'inventaire de potentiel. On n'a pas trouvé de site qui permette de dire qu'en même temps, il y avait des Européens et des Micmacs qui habitaient le territoire. On est plutôt porté à croire que les Micmacs ou les Amérindiens ont peut-être habité, mais avant la venue des Européens. Parce que en trouvant de la poterie, les archéologues disaient, si on trouve de la poterie, c'est sûr que ça pourrait dire qu'on restait un peu plus longtemps que rien qu'une saison, parce qu'on ne traîne pas sa poterie sur les bateaux à chaque saison. Mais encore là, on n'a pas terminé les recherches là-dedans.
Voici en chanson la jeune Micmac Emma Stevens de la Nouvelle-Écosse au Cap-Breton avec des membres de sa communauté. Elle chante « My Unamaki » qui signifie « mon Cap-Breton ». Et à la fin, il nous propose une petite rille qu'ils apprécient.
Dawn in the hearts of the old and the young, where the sweet grass grows so wild and so free, where the big sea unamhagi. Door from shore to shore, a treasure I'll say no more. As the sun sinks low, the moon lights the snow, and the stars sing unamagi.
Wajibane uksi uladet minigo. Yapchu yidis tete amana gesadam. Akasal kisko jino. Tao.
From sunrise to sunset and all through the night. My heart's on the island of Isles. In the land of the dawn, the heartbeat is strong. The heartbeat of Una Mali. My Unamagi.
Histoire, il y a un moment où il y avait des Amérindiens qui étaient ici en même temps que les Européens. C'était en 1597 quand il y a eu Charles Lay, l'Anglais, qui lui voulait venir prendre la place pour faire la chasse aux morses. Ce que c'est qui est raconté, c'est qu'il y avait 200 Bretons et Français qui ont sorti l'artillerie pour les chasser du territoire. Puis qu'au petit matin, il y avait 300 sauvages qui étaient prêts à les attaquer, ces Anglais-là. Mais c'était en juillet. C'était dans la saison où peut-être que les Amérindiens étaient de ce côté-ci, parce que dans l'histoire, on voit aussi qu'à cette période-là, les Micmacs, ils commerçaient. Donc, ils pouvaient venir l'été pour vendre des paniers, faire des échanges commerciaux avec les Européens. Mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Il n'y a pas eu de fouilles systématiques pour étudier certains sites. Puis là-dessus, sur ce qu'on a trouvé à ce moment-là, c'était qu'il y a eu une présence très ancienne quand même aux îles. Ce que c'est que les indices qu'on a pu voir, c'est peut-être il y a 8000 ans avant aujourd'hui. Ça veut dire 8000 ans avant 1950, là. Ça fait que c'est quand même très loin. Puis ensuite, on a vu qu'il y avait peut-être aussi une autre période qui était comme ce qu'ils appellent l'archaïque, 5000 ans avant aujourd'hui. Ensuite, il y a plus récent, 1500. Mais c'est que des indices qu'on a trouvés. Ça fait que entre ces années-là où on a fait cet inventaire de potentiel et aujourd'hui, il n'y en a pas eu de fouilles de fait. Il n'y a pas eu non plus de mise en valeur ou quoi que ce soit. C'est toujours à faire. Mais par contre, moi, ce que j'ai remarqué, puisque je trouve que c'est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont ramassé des objets, mais peut-être que c'est fait avec bonne intention, mais il faut savoir que tout le patrimoine ou les artefacts préhistoriques, quand on parle des Amérindiens de cette époque-là, tout ce qui peut rester, c'est certains travaux de la pierre. On peut parfois voir des pointes de flèches ou des herminettes, mais le plus souvent, ce que c'est qu'on trouve, c'est de la taille de pierre. Et ces objets-là, c'est d'une préciosité importante et c'est pas intéressant de les ramasser si on ne le fait pas correctement. Ça, c'est dommage que le potentiel qu'on a soulevé devienne du pillage qui ne pourra pas être interprété. Parce que pour pouvoir interpréter des objets de cette nature-là, il faut vraiment savoir exactement où est-ce qu'ils étaient et dans quel environnement. Est-ce qu'il y avait un petit foyer, par exemple, où on faisait cuire quelque chose dans ce secteur-là? Ça va nous dire quelles étaient les habitudes des Premières Nations qui ont occupé le territoire de façon temporaire ou de façon permanente. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, de mieux connaître, puis surtout de protéger les sites à potentiel.
Page 37 du document des inventaires des sites archéologiques préhistoriques des îles, elle dit qu'on est en présence probable d'un des sites historiques les plus anciens du Canada et le plus ancien témoignage d'occupation européenne sur les îles. Elle ajoute, ce site est d'un immense intérêt quant à non seulement notre compréhension de l'histoire des îles, mais également de l'occupation européenne dans la région du Golfe. Ainsi, ce site devrait être protégé contre toute éventuelle perturbation.
Pour plusieurs des sites qu'on a identifiés avec potentiel, il est certain qu'on risque de trouver de plus anciens ici et de uniques au Canada. C'est un site de fonderie du Morse. Celui-là, ça nous amène un peu aussi à voir la présence des Basques dans l'archipel. Parce que ce sont les Basques qui étaient les plus compétents dans la fonderie de gros de baleines. Mais ici, aux îles, c'est un site de fonderie de Morse. Et on sait maintenant que le Morse, il a disparu. Il y a eu vraiment ce site-là où est-ce qu'on a des indices d'utilisation à des fins de fonderie de Morse, c'est effectivement vrai, il devrait être hautement protégé. Ça devrait être quand même sous la responsabilité en partie de la municipalité puis en partie des citoyens. On se doit de protéger les quelques témoignages de la présence de gens qui nous ont précédés sur le territoire.
Si vous me le permettez, je vais citer un autre extrait. Elle suggère un programme public d'interprétation qui devrait être formulé pour informer les Malinois d'abord, les visiteurs. Elle parle de brochures attrayantes qui devraient être faites à cette époque-là. Elle parle du fameux centre, la description de la vie des premiers habitants des îles aux périodes préhistoriques et historiques, et d'autre part, la nécessité de protéger l'héritage archéologique des îles. Elle parle évidemment du centre d'interprétation, des expositions, des visites. Comment peut-on expliquer que la municipalité des îles n'a pas donné suite? Qu'est-ce qui s'est produit?
C'est probablement la municipalité a comme d'autres priorités, je dirais. Mais c'est dommage. Moi, je pense qu'il va falloir croire que dans l'avenir proche, qu'on va trouver une façon de protéger ces témoignages uniques et rares. On a comme citoyens et comme autorité municipale ou d'autres institutions, on a une responsabilité à l'endroit de ceux qui nous ont précédés. Le territoire n'est pas uniquement pour qu'on fasse de l'argent. Le territoire est pour comprendre comment on peut vivre dans un milieu, comment on peut connaître la nature, etc. Puis, cette richesse de la diversité culturelle, moi, j'y crois toujours. C'est l'ouverture sur ceux qui nous ont précédés, comme sur ceux aujourd'hui qui sont de nature différente. On se doit de se rendre compte que nous sommes des humains, là, et que à travers le temps, ça a toujours été des humains. Là. Pour longtemps, on a situé les sauvages, les Européens, quand ils sont venus, ils étaient la tête haute, tout le monde devait être comme eux. Et on a situé les sauvages comme étant dans une hiérarchie. Eux autres, ils font juste de la cueillette, pas de la chasse. Et puis après ça, ben, vous allez voir, ils vont être comme ci, puis ils vont être comme ça. Puis à un moment donné, ils vont être comme nous autres. Mais c'est absolument pas ça. Dans la vraie vie, là, les cultures sont toutes égales. Et les humains sont tous des humains intelligents à travers la planète et à travers les temps.
Un des aspects qui vous a touché, c'est la fameuse pointe à maraîcher.
Ah, ben là, ça c'est que j'avais fait, comme je vous ai dit, l'inventaire avec l'archéologue. Mais quand j'ai repris ma retraite, il y a 2 ou 3 ans, je me suis plongée dans les recherches sur les Amérindiens. Puis une chose qui m'a chicotée à un moment donné, c'était Pourquoi on appelle ça la pointe à Maréchite? Parce que ça, on n'avait jamais élucidé la chose. Certains gens disent, oh, c'était une femme qui s'appelait comme ça. D'autres disent, c'est une déformation du mot Malécite.
Vos informations étaient issues de la tradition orale.
Oui. Si on parlait, par exemple, des gens qui habitent dans ce secteur ou sur l'île d'Avrobert, ben, on savait pas. Fait que j'ai, à ce moment-là, vérifié à la commission de toponymie. C'est un toponyme qui est bien inscrit. Ben, c'était marqué qu'on connaissait rien. Puis si vous connaissez quelque chose, ben, faites-nous le savoir. Ça fait que là, j'ai fait ma petite recherche. J'ai trouvé que Maréchite, c'était le nom d'une nation amérindienne qui, aujourd'hui, on dit les Malécites. Mais ça, les Maréchites, c'est donc différent des Micmacs. Les Micmacs sont une société ou une nation qui était un peu dans notre Acadie, puis qui ont l'ouverture sur le Golfe. Alors, les Malécites, qui se nommaient les Maréchites, eux, c'est plutôt les Indiens qui sont tout le long du fleuve Saint-Jean. Eux, ils sont plutôt, on les disait, les spécialistes des portages. Ils montaient le fleuve, ils prenaient une rivière, puis bon, ils se rendaient jusqu'au fleuve Saint-Laurent à partir du Maine. Donc, à travers le temps, les Micmacs étaient un peu des ennemis, ou en tout cas, ils ridiculisaient les Malécites, parce que les Maréchites, eux, c'était des gens qui mangeaient du rat musqué. Fait qu'ils les appelaient des Malécites. C'est comme ce surnom qui est passé dans l'histoire pour les Maréchites. Parce que les Maréchites, eux, étaient peut-être un peu moins sédentaires. C'était des gens qui se déplaçaient plus nomades. Alors, c'est comme les Micmacs qui, en les insultant, les traitant de Malécites, c'est ce nom-là qui est resté. Et là, j'ai vu que c'était le seul endroit, dans les toponymes, c'est le seul toponyme qui existe, c'est la pointe à Maréchite, qui conserve ce nom-là. C'est dans les années 1700, les missionnaires, l'abbé Maillard, il parlait, parce qu'il était responsable des nations, du Cap-Breton, du Nouveau-Brunswick, de l'Acadie, en fait. Puis il disait, tant les Maréchites que les Micmacs sont comme ceci ou comme cela. C'était vraiment le nom de la nation. Puis, ben, moi, je rajouterais que c'est vrai que dans ce secteur où il y a la pointe à Maréchite, il y a aussi le portage du Cap, le grand portage, le petit portage. Donc, pour moi, c'est un terme qui réfère aussi aux Amérindiens. Pour ce qui est des portages, moi, je dis plus aux Malécites, mais les Micmacs aussi faisaient du portage. Il y a eu une tentative pour établir un groupe de Maréchites, 1700 au début, là, aux îles de la Madeleine, et ça n'a pas tenu. Ils ne se sont pas établis. Les Micmacs pouvaient partir de la Nouvelle-Écosse et se rendre à Terre-Neuve. Les canaux de haute mer, ils étaient vraiment très, très habiles. Et un des historiens ethnologues importants au Québec, Charles Martins, qui a fait le volume qui s'appelle « Les Micmacs et la mer », dans ses travaux par après, il a émis l'hypothèse que les Micmacs étaient vraiment des insulaires. Leur territoire était un peu comme un archipel. Il y avait comme nous autres, l'île du Prince-Édouard, il y avait le Cap-Breton, c'était leur territoire. Il a émis l'hypothèse qu'effectivement, c'était une communauté insulaire de longue date.
Pourquoi aimait-il se venir aux îles, selon vous? Parce que la ressource était disponible ailleurs qu'ici. Parce que c'était pas évident de venir aux îles de la Madeleine. S'il y a d'autres sources plus proches...
C'est une très bonne question. À la période historique, là, quand les Européens étaient là, les îles de la Madeleine étaient très bien fréquentées. Donc, c'est certain que pour eux, s'ils voulaient commercer, c'était intéressant de venir rencontrer ce qui se passe. Puis, tu sais, les Européens ont apporté les bateaux à voile. Ils se sont fait, à un moment donné, des échanges de bateaux, de canaux, pour être capables de se concurrencer, je dirais.
Ils auraient même bataillé dans une des baies ici, très proche contre les Anglais, avec les Français.
Oui, exactement. À la période historique, c'est probablement ces questions-là. À la période préhistorique, ben, je pense qu'on a encore des travaux à faire, mais l'archipel a déjà été plus grand aussi. Hein? Fait que c'était peut-être un peu moins loin. Si on s'imagine que l'archipel était plus proche de l'île du Prince-Édouard ou du Cap-Breton, ça pouvait faire partie de leur territoire.
Et selon certaines saisons, qui auraient été bonnes dans une région, l'auraient été moins dans une autre.
D'après moi, c'est très possible.
Ce que vous conservez de tous ces travaux que vous avez effectués?
Moi, je dirais que d'autres travaux sont nécessaires et que la connaissance doit circuler davantage, puis qu'on doit avoir vraiment beaucoup de respect pour ceux qui nous ont précédés sur le territoire, qui l'ont conservé. Le territoire. Des fois, je me dis, mais quelle sorte d'archipel qu'on va léguer à nos enfants? On est en train de vendre ça, comme quelqu'un me disait, à la bicheté. Tu sais, on est prêt à tout raser. En ce moment, c'est très, très, très important là, dans les îles. Les Amérindiens cherchaient eux aussi un certain confort. Des fois, on dit qu'on nous présente les Indiens ou la préhistoire avec des hommes qui sont comme tout crochus, avec quasiment le poil dans la face et tout ça. Mais c'est pas comme ça, là. C'est vraiment des images, des mythes qui font notre affaire, des fois, pour se dire qu'on est meilleur que les autres, là. Mais c'est pas ça du tout, là. Les Mi'kmaq, entre autres, là, ils confectionnaient des vêtements, là, avec du perlage, là. Tu sais, les poils de porc-épic, tout coupés, tout colorés, puis c'était des dessins magnifiques, là. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, on devrait avoir une petite exposition sur nos amis, parce que les Acadiens, on était amis avec les Mi'kmaq, pour mieux connaître toute cette culture. On aurait avantage à réfléchir, puis aussi sur notre lien avec la nature. C'est inquiétant de voir comment on se fout un peu des richesses et des raretés qui nous sont prêtées.
C'était un autre chapitre de la présence autochtone aux îles de la Madeleine dans la série Le Monde change. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous pour une autre histoire très bientôt.